Daniel Harari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Lectra. On va revenir avec vous sur votre année 2013 et puis sur les perspectives. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette année 2013? Il y a une croissance de l'activité, on pourrait dire, malgré un environnement qui reste difficile.
Oui, c'est une très bonne année pour nous. Tout d'abord, on a mis en place un plan stratégique à 3 ans qui devrait nous porter à l'étape suivante. On a investi énormément en recherche, on a des très bons résultats, une croissance du chiffre d'affaires malgré une conjoncture dégradée, notamment en Europe, et une entreprise qui plus que jamais se positionne sur le haut de gamme.
Justement, qu'est-ce qui pèse aujourd'hui le plus sur votre marché? On rappelle que vous êtes spécialiste des leaders mondiaux sur les logiciels, les équipements de CFAO, notamment pour l'industrie textile, mode et habillement, également automobile. Qu'est-ce qui a le plus pesé pour vous en Europe? C'est quoi? C'est les donneurs d'ordre qui c'est un secteur en particulier?
C'est l'incertitude. En fait, les mouvements en avant, en arrière des différents gouvernements, les fluctuations des devises font que les chefs d'entreprise retardent leurs investissements pour voir plus clair.
Donc, ce qui veut dire que par rapport à, par exemple, des nouveaux produits, effectivement, ils attendent et vont reporter ce type de commandes.
Oui, on voit très nettement qu'on est tiré par des besoins naturels, c'est-à-dire quand la production augmente ou quand il y a des nouveaux programmes automobiles, par exemple, les clients commandent naturellement. Mais dès qu'il s'agit de mettre en place un nouveau logiciel, ils se disent je peux le faire dans 3 mois ou d'automatiser une nouvelle ligne de coupe, ils se disent je peux le faire plus tard.
Alors, quand on parle de l'Europe, c'est quand même plusieurs pays, bien entendu. Est-ce qu'il y a des pays en particulier qui souffrent plus que d'autres?
Dans la mode, la France et l'Italie très clairement souffrent. On sent l'absence de visibilité. Les investissements vont davantage sur le réseau de distribution, notamment en Chine. Mais l'automobile en Allemagne, Europe de l'Est, se porte plutôt bien.
Donc là, on retrouve effectivement une vraie différence entre ces pays.
Absolument. On le ressent très fortement tous les jours.
Du côté de l'Asie, justement, là, on a eu, alors plutôt en fin d'année dernière et début d'année, beaucoup de questions sur les pays émergents. Sur la Chine, qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui, de votre
En
point
tout
de
cas,
vue?
pour nous, c'est notre premier marché à l'avenir. C'est déjà aujourd'hui, avec les États-Unis, un de nos deux premiers marchés. Nous attendons une croissance très forte en Chine pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une montée en gamme, aussi bien dans la mode que dans l'automobile, des marques chinoises. Deuxièmement, une demande de plus en plus forte d'une population de plus en plus riche. Et le fait que les coûts augmentant, le besoin d'optimiser se fait de plus en plus fort.
Ce qui s'est passé sur les devises, ça a eu un impact pour vous?
Oui, ça a un impact. Ce sont plus des devises périphériques qui ont bougé que l'euro-dollar. Mais on sent par exemple au Japon, où il y a eu presque 30% de baisse du yen, que ça nous pénalise. On a un concurrent japonais, donc il a gagné un avantage compétitif de 30% immédiatement. Même chose au Brésil, en Turquie. On ressent très nettement ces dévaluations.
Quelque part, compte tenu de la rapidité des mouvements, vous ne pouvez pas forcément réagir tout de suite.
Non. Et c'est difficile de réagir. On n'a pas de bonne solution. La question, c'est quelle est la moins mauvaise?
Alors, vous parliez d'innovation et d'investissement. Quels sont justement les points sur lesquels vous allez investir dans les investissements principaux des prochaines années?
Alors, on a lancé un grand plan d'investissement de 50 millions d'euros sur les années 2012-2015, donc nous sommes à la moitié de cet investissement. Nous avons décidé de recruter une force de vente et des équipes marketing pour doper l'entreprise, de doubler le nombre de commerciaux en 3 ans, de remplacer une partie de notre force de vente, de renforcer nos investissements marketing, mais également de renforcer nos équipes de recherche d'à peu près 20%. Donc aujourd'hui, nous avons un budget de recherche qui est proche de 10% du chiffre d'affaires et qui représente à peu près 3 fois celui de notre concurrent principal.
Du côté de la tendance sur les différents secteurs, est-ce que le début d'année présente une certaine modification ou pas?
Pas fondamentalement, on sent quand même que ça va mieux dans l'automobile, qu'en Europe, il y a une légère reprise. On ne sait pas si elle va durer, mais on la ressent un peu. Dans la mode, pas de changements fondamentaux.
Du côté toujours de ces perspectives, est-ce que le carnet de commandes, lui, est encore trop peu, je dirais, fourni à votre goût?
Oui, très clairement, nous vivons avec des aléas, des décisions au jour le jour de nos clients. Donc une absence de visibilité, c'est le côté un peu délicat de la situation. Mais d'un autre côté, nous avons un peu plus de 50% de revenus récurrents qui couvrent 80% de nos frais dès le 1er janvier, donc un compte d'exploitation qui est parfaitement sécurisé.
Donc on pourrait dire qu'il y a malgré tout de la visibilité compte tenu de
Voilà.
cette structure de l'activité.
Absolument. Nous gérons l'entreprise avec un besoin en fonds de roulement négatif. Nous avons une très grande sécurité. priorité de notre compte de résultat, c'est plus un manque à gagner si jamais l'accélération ne se produisait pas maintenant.
On peut rappeler aussi que vous n'avez pas de dette, ce qui est dans une période un petit peu compliquée, plutôt un avantage.
Voilà, 84 millions d'euros de fonds propres, 30 millions de cash en banque, ça nous permet de dormir la nuit et d'aborder avec sérénité les aléas des années qui se présentent devant nous.
Justement, du côté des perspectives, vous dites tout de même que finalement, par rapport à ce que vous aviez anticipé initialement, vous allez devoir reporter d'un an, hein, par rapport à ce que vous aviez prévu pour 2015, ce sera plutôt en 2016. Ça, il n'y a pas de raison que ça change compte tenu de cet environnement qu'on a mentionné.
Non, on en a tenu compte. Ça veut dire qu'on espère faire en 4 ans ce qu'on pensait faire en 3 ans. Mais les choses peuvent changer et on fait de tout pour qu'on arrive à délivrer le plus vite possible. On a quand même fait des avancées très significatives en 2013, une augmentation plus rapide que prévu des revenus récurrents, une réduction des dépenses en dehors des investissements dont je parlais tout à l'heure, et des fondamentaux sur le plan de notre offre, sur le plan de nos services, qui ont progressé très fortement. Donc nous sommes plus forts que jamais dans un contexte qui reste aléatoire, difficile, mais où nous sommes très optimistes sur la Suisse.
En conclusion, compte tenu à la fois de sa situation financière, et en même temps vous êtes, je le disais en introduction, leader mondial, mais est-ce que vous pouvez avoir besoin de réaliser un certain nombre d'acquisitions? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers pour vous, compte tenu de l'évolution aussi de votre marché?
Alors, des besoins, non. Des opportunités, peut-être. Nous souhaitons attendre encore un an pour faire des acquisitions, pour avoir une entreprise parfaitement en ordre de marche, avec une force commerciale plus importante qui apportera un effet de levier. Mais si des opportunités se présentaient dès 2014, nous les regarderions de près.
Donc avec toujours peut-être le potentiel de développement sur ces marchés émergents encore plus?
Aujourd'hui, nous attendons une croissance qui viendra à peu près pour 25% de la Chine, 25% de l'Amérique du Nord. Ensuite, on a le Brésil aussi qui marche très bien. Et donc, évidemment, ce sont ces pays-là que nous ciblons en priorité.
Merci, Daniel Harari, d'avoir fait le point avec nous. On rappelle que vous êtes donc le directeur général de l'ECTRA.
Merci.